je suis dévarié, excusez-moi. Voilà, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai brièvement évoqué vendredi soir. Je vais le faire simplement, mais je pense que ça vaut la peine de se poser la question. Je vais le faire sous forme de question. C'est une question. S'il y avait un titre au message, ça serait celui-là. Une vie chrétienne ou une marche avec Dieu sans effort existe-t-elle ? Voilà. Une vie chrétienne sans effort existe-t-elle ? Alors, peut-être dire quand même en commençant, bien sûr, on est bien conscient, et je vais citer des paroles de l'apôtre Paul, qui va dire ceci, c'est que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On est bien d'accord cet après-midi que pour être sauvés, nous n'avons pas à faire, mais que Jésus a tout accompli pour nous à la croix du calvaire. On est bien conscient de ça cet après-midi. Tout a été accompli, c'est la dernière parole que Jésus t'a prononcée sur la croix. Pour que je sois sauvé, il suffit simplement d'ouvrir son cœur et de croire. Il n'y a pas de place pour nos mérites. Mais une fois qu'on a dit ça, je repose ma question. Est-ce qu'une vie chrétienne sans effort, ça existe? Alors, on va peut-être lire trois passages, trois textes en introduction. Je ne vais pas être long cet après-midi, mais je pense que ça vaut la peine d'y réfléchir. Un premier texte dans le livre des Proverbes, un verset que j'affectionne particulièrement, Proverbe 20, verset 4. Livre des Proverbes, chapitre 20, verset 4, où il est dit ceci. « À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. » Est-ce que vous connaissez l'expression « vouloir le beurre et l'argent du beurre » ? Voyez ? Ben, déjà à l'époque de Salomon, puisque c'est Salomon qui a écrit le livre des Proverbes, enfin, du moins en partie, c'est quelque chose qui aurait pu être dit. Voyez ? Voilà une personne qui voulait le beurre et l'argent du beurre. Voyez ? Il se contente du minimum, d'ailleurs il ne fait même pas le minimum, mais il voudrait le maximum. Il voudrait récolter. Voyez ? Mais ça, ça ne marche pas, voyez. Et ça ne marche pas dans la vie, tout court, dans la vie de tous les jours, mais ça ne marche pas non plus dans la vie spirituelle. Un deuxième texte, regardez, une parole de l'apôtre Paul, que nous connaissons aussi, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, une autre image. Alors ici, c'est l'image du laboureur, mais dans les Corinthiens, l'apôtre Paul parle de l'athlète. Il aimait bien se servir de l'image du sportif. Il dit ceci, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Ils le font. Vous avez noté ? Et là, je l'ai souligné dans ma Bible, il a dit « Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et puis un troisième texte qu'on va lire ensemble aussi. Peut-être celui sur lequel je voudrais un peu plus m'appuyer cet après-midi, dans 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1er. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Et là, c'est clair, c'est net. Il est dit ceci, comme sa divine puissance, elle nous a donné, à nous, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et écoutez bien. À cause de cela même, c'est-à-dire à cause de tout ce qu'on vient de lire avant, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance à la patience la piété l'amour fraternel l'amour ou la charité, car si ces choses sont en abondance et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, ici c'est très clair. Tout a été accompli pour que nous menions une vie qui soit digne de lui. Il nous a donné, on l'a lu dans la dans la bouche de Pierre, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire, dit avec d'autres mots, Dieu a tout fait pour que nous menions une vie qui lui soit agréable. Il a tout accompli sur la croix, on l'a dit, Jésus est mort pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie, pour que nos péchés soient effacés. Tout a été fait pour que, quelque part maintenant, nous puissions vivre en lui, pour lui et avec lui. Mais néanmoins, vous avez remarqué quand même que même s'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, Pierre dit, et moi je l'ai souligné, il dit quand même, à cause de cela, même, faites tous vos efforts. Vous voyez ? Faites tous vos efforts. Et je crois qu'il y a ici quelque chose d'extrêmement important qu'il faut comprendre, qu'il faut réaliser. On le sait pour la plupart, mais je pense que ça vaut la peine de le formuler. C'est que, et on touche là à ce qui a été une erreur fondamentale de l'Église traditionnelle. L'Église traditionnelle. Hein. C'est-à-dire que on ne fait pas des efforts pour mériter la grâce de Dieu. On ne fait pas des efforts pour recevoir le salut, pour recevoir les grâces de Dieu, pour recevoir des bénédictions. Non, on ne fait pas des efforts pour recevoir, mais on fait des efforts à cause d'eux. C'est pas la même chose. On fait des efforts, et il nous est dit ici ceci, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Je fais des efforts, en tout cas, Dieu nous invite à faire des efforts à cause de ce que Jésus a accompli, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Et c'est pas la même chose. Faire des efforts pour mériter, vous avez des gens qui aujourd'hui sont prêts à faire tout un tas de choses pour que Dieu les bénisse. Alors on est prêt à aller faire des pèlerinages, on est prêt à aller là-bas, on est prêt à payer cher, à donner ceci, à faire cela. Et si on peut faire du bien, faisons-le. C'est pas ça, mais on est prêt à faire du bien pour mériter. On est prêt à faire des efforts dans tous les domaines pour ceci ou pour cela, et pour plaire à Dieu. Mais s'il y a des efforts à faire, c'est pas pour, c'est à cause d'eux. Vous voyez ? C'est pas la même chose. Et si cet après-midi, la Bible est là pour nous rappeler que quelque part, oui, la vie chrétienne nécessite des efforts, c'est pas pour mériter, mais c'est à cause de ce qu'il a fait pour moi. Et c'est quand même pas la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez les écrits de l'apôtre Paul, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qu'il a abondamment enseigné. Alors, on va faire défiler quelques textes. Je vais faire travailler Marie-Paul cet après-midi. Par exemple, regardez, Actes chapitre 24, verset 16. Actes chapitre 24, verset 16. Paul dit, c'est pourquoi, et notez bien, je m'efforce d'avoir constamment, et pas de temps en temps, pas quand ça va bien, pas quand toutes les circonstances sont bonnes pour moi, mais je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile d'avoir une conscience sans reproche. Aujourd'hui, c'est tellement facile d'avoir une conscience souillée. Et quand même, on sait que par le sang de Jésus, notre conscience a été lavée des œuvres mortes. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit. Hein ? Mais quelque part, garder une conscience pure, une conscience qui plaît à Dieu. Vous voyez, il y a tellement de gens qui ont un poids sur la conscience. Vous voyez, mais le Seigneur nous a libérés de tout ça. Mais pour conserver une conscience pure, ben ça nécessite des efforts. Parce que aujourd'hui, c'est si vite fait d'avoir une conscience souillée, vous voyez, avoir des choses sur la conscience, vous voyez, et ça nécessite un effort. Et Paul le dit, vous voyez, Paul le dit, je m'efforce, hein, il y a des efforts à faire, parce que c'est pas toujours simple d'avoir une conscience pure, d'avoir sans reproche, d'avoir des pensées pures, comme quelqu'un a dit, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Et des fois, pour les empêcher de faire leur nid, ben, vous voyez, il faut se battre, hein, vous voyez. Il faut dire, Seigneur, non, il y a ça j'en veux pas dans mes pensées. Ça, je veux pas me laisser accabler dans ma conscience. Et ça demande, voyez, un effort dans le sens que, Seigneur, ce que je veux, c'est te plaire. Voyez ? Regardez, on va un petit peu plus loin. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 8 et 9. L'apôtre Paul s'adresse à ces chrétiens de Corinthe. Il leur dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Et regardez, c'est pour cela aussi, c'est-à-dire à cause de l'espérance qui est en nous, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Mais dites-moi, être agréable à Dieu, plaire à Dieu, mais ça nécessite des efforts, hein ? Parce que c'est beaucoup plus facile de faire n'importe quoi. C'est beaucoup plus facile de lui déplaire, hein, que de se laisser aller. voyez, de laisser notre chair prendre le dessus, parce que votre chair et la mienne, elle est portée au mal. Hein. Si on la laisse faire ce qu'elle veut, et je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, voyez, parce que quelque part, on est tous faits de la même pâte. Voyez, ce que nous sommes est tourné vers le mal. Et si on laisse notre chair prendre le dessus, si quelque part on la, voyez, on la tient pas en bride, c'est-à-dire il y a un effort à faire, ben on fait n'importe quoi. Et être agréable à Dieu, bien sûr, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On est ok, mais n'empêche que il y a des moments où ben, ça va nécessiter non, ça je le ferai pas, parce que je veux plaire à Dieu. Voyez, ça va nécessiter parfois une prise de position. Ça va nécessiter parfois certaines décisions, certains choix. Et des fois, vous voyez, c'est ce que dit l'apôtre Paul ici. Regardez, il prend une autre image, s'adressant à Timothée, il lui dit ceci. De Timothée, chapitre 2, verset 15, il lui dit, encore, il s'adresse à ce jeune garçon, il lui dit, « Efforce-toi », vous voyez, c'était courant dans son langage, vous voyez, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Voyez, « Efforce-toi ». Et ici, moi, j'aime bien cette image. Il prend l'image de l'ouvrier, un ouvrier qui n'a point à rougir. Et ça m'a fait penser à cette image. Vous savez comme moi, quel que soit le corps de métier, il y a les bons ouvriers, il y a les mauvais. Hein. Et en général, vous avez les bricoleurs du dimanche, dont je fais partie. Je le confesse devant vous. Hein. Et puis vous avez les gens qui sont doués de leurs mains. Et en général, vous faites vite la différence. Hein. Entre un bricoleur du dimanche et quelqu'un qui est doué de ses mains, ça se voit au détail. Hein. Vous regardez les petits détails, vous vous dites, ouh, lui, il a des mains en or, il a des doigts. Moi, j'ai mon gendre, j'arrête pas de lui dire, tu veux me greffer tes mains? Parce que c'est pas des mains qu'il a, c'est des mains en or qu'il a. Il fait tout, il touche tout. Et des fois, je lui dis, mais tu as appris à faire ça? Non, c'est la première fois. Mais comment tu fais? Voilà, bon, bref, c'est comme ça. Et j'ai dit, le jour de la distribution, je devais être derrière, moi, ce jour-là. Mais bon, mais j'allais dire, sur le plan spirituel, c'est la même chose. Si je veux être, je parlais de bricoleur du dimanche, mais si je veux être un chrétien de pacotille, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Hein. Mais par contre, si je veux être un enfant de Dieu, vraiment qui veut faire les choses bien, qui veut plaire à Dieu comme un bon ouvrier, quoi, vous voyez, qui veut faire bien son travail, mais si je veux vivre une vie qui soit digne de lui, eh bien, ça va nécessiter des efforts, hein. Ça va nécessiter des efforts. Et c'est un petit peu l'image que, ici, Paul donne au jeune Timothée. Et regardez, toujours dans cette même épître, regardez ce que Paul dit. Il va employer trois images qui, pour moi, sont très importantes. Regardez, il va dire ceci. « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il continue en disant « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Et enfin, « Il faut... que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. » Alors, vous avez remarqué, ici, il est question du soldat, il est question de l'athlète et il est question du laboureur. Et si vous regardez bien, si vous réfléchissez, le point commun des trois, c'est que tous les trois, ils ont une discipline. Ils ont une discipline. Le soldat, en général, le soldat, l'armée, c'est carré. Rien qui dépasse, hein, voyez, et ceux qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans d'armée, vous le voyez très vite, c'est carré, voyez. Donc il y a une discipline, voyez. L'athlète, il y a une discipline aussi, hein. Quelle que soit la discipline sportive, un athlète, il sait très bien que s'il veut performer, ben, il va falloir qu'il soit régulier. Il va falloir que tous les jours il s'entraîne, quel que soit le sport qu'il pratique. Il va falloir qu'il s'y mette, quoi. S'il fait un jour oui, un jour non, un jour j'ai envie de m'entraîner, le lendemain j'ai pas envie, je préfère aller à la plage, je sais pas moi. Ben il va pas y arriver, hein. Il va pas y arriver. Il va se faire dépasser et puis il sera un athlète de pacotille. Il sait qu'il faut qu'il soit régulier. Moi j'avais vu il y a quelques mois de cela à la télévision les nageurs là, vous savez les nageurs, les nageuses. Mais les kilomètres qu'ils font, mais tous les jours. Dès 6h30 du matin, et allez, vas-y, je te fais une, et deux, et trois. Et ils font des kilomètres et des kilomètres. Mais après, dans l'eau, c'est des avions, hein. Vous les voyez. Mais vous vous dites, mais comment ils font? Mais derrière, il y a des heures et des heures et des heures d'entraînement. Et ils le font pour une couronne, comme on l'a lu, corruptible. Vous voyez ? Il y a une discipline. Et le laboureur ? Mais le laboureur, c'est pareil. Hein, tout à l'heure, on a lu, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Vous voyez ? Ben, le laboureur, il sait très bien que si c'est un jour oui, un jour non, un jour je vais dans le champ et puis je fais ce qu'il y a à faire dedans, je laboure, enfin, et puis pendant 3 semaines, j'y mets pas les pieds, et puis que je reviens parce que tiens, je suis de bonne humeur, le champ, il va pas produire grand-chose. Hein, vous voyez ? Il y a, dans les 3 cas de figure, il y a une discipline personnelle. Vous voyez ? Et là, on touche à quelque chose d'important. Vous voyez ? C'est que si on veut avoir une discipline spirituelle personnelle, ça va demander des efforts. Parce que notre chair, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Vous avez vu, mais ça c'est... Les enfants, ils n'aiment pas la discipline. Vous ne leur avez pas appris, il vous dit, tu viens, on fait ça. Non. Vous ne l'aurez pas appris, mais ils savent le faire, hein, voyez. Et avoir une discipline spirituelle personnelle, mais qu'on le veuille ou non, ça va nous demander des efforts. Ça va nous demander des efforts, voyez. Et je crois que le problème, souvent, il est là. Vous avez noté ce qu'on a lu en introduction. À cause du froid, le laboureur, il ne fait rien. Il ne laboure pas, hein, à cause de ceci. À cause de cela, vous voyez, il y a toujours un truc, vous voyez, je suis fatigué, Mais la discipline spirituelle, personnelle, ça va nécessiter des efforts. Ça va nécessiter des efforts. Et je crois qu'on touche là quelque chose d'important, c'est que trop d'enfants de Dieu, parfois trop de croyants, fonctionnent à l'envie, à l'humeur. Alors aujourd'hui j'ai envie, tiens, j'ai envie, et puis après le lendemain j'ai plus envie, et puis, aujourd'hui je suis d'humeur, et puis le lendemain je suis plus d'humeur. Alors, bien sûr que j'exagère un peu, mais c'est pour qu'on comprenne, vous voyez, mais quelque part, si je veux avancer avec Dieu, si je veux faire les progrès que Dieu veut que je fasse, si je veux rentrer un petit peu plus profondément dans ce que Dieu a prévu pour ma vie, mais j'ai besoin d'avoir une discipline spirituelle. Et avoir une discipline spirituelle personnelle, ben ça va nécessiter, ben, que parfois je me secoue un peu. Voyez, vous, je sais pas comment vous faites. Vous parlez pas des fois, vous dites pas, mais allez, secoue-toi un peu, oh, bouge-toi un peu. Voyez, vous vous dites, il y a que moi qui fais ça, dire, oh, allez, hein, parce que on est tous pareils. On n'a pas forcément envie. Des fois, on se, aujourd'hui, mais à cause de ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux pas me condamner de me dire, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie, j'ai la flemme. Hein. J'ai la flemme, oh là là, j'ai une flemme aujourd'hui, pouf. Mais quand je mets la croix à côté de ça, quand je considère ce que Jésus a accompli pour moi, quand je considère l'œuvre de la croix, et pas simplement que ça, mais quand je considère le plan de salut de Dieu, quand je considère l'éternité, quand je considère que Jésus va revenir nous chercher, tout ça, moi, je vais me dire, j'ai la flemme. Je me dis, non, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez, avoir une discipline spirituelle personnelle, ça nécessite des efforts. Je comprends pourquoi Paul disait, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, parce qu'il était comme vous et moi. Et si on laisse notre chair faire ce qu'elle veut, concernant les choses de Dieu, elle ne va pas avoir beaucoup envie. Hein. Elle ne va pas avoir beaucoup envie. Hein. Je disais, il n'y a pas longtemps, ça peut nous arriver des fois, hein, de ne pas avoir envie de prier. Mais est-ce que parce que je n'ai pas envie de prier, je ne dois pas prier ? Hein, y a des choses, des fois, on sait très bien qu'on n'a pas envie, mais on sait très bien que si on ne les fait pas, eh ben, ça ne va pas aller. Hein. Monsieur, il faut que vous marchiez. Marcher. Il faut marcher parce que ça va vous faire du bien, tout ça. Mais si le médecin il le dit, c'est pour... Mais spirituellement parlant, c'est pareil. Il y a besoin d'avoir une discipline spirituelle et personnelle. Et ça... Ben, ça demande parfois des efforts, ça demande de se tenir en bride, et on est tous pareils, hein. On est tous pareils, là, sur notre chair, elle est la même, et c'est là où va se faire la différence. Soit je laisse mes humeurs, mes envies me diriger, soit je dis non, Seigneur, quand je réalise ce que tu as accompli pour moi, Seigneur, Seigneur, à cause de ce que tu as fait, pas pour mériter, pas pour que tu me bénisses, mais à cause de, Seigneur, je veux, ben, oui, je traite durement mon corps. Oui, ben, Seigneur, je ne veux pas m'écouter. Mais Seigneur, je veux faire ce qu'il y a à faire parce que je veux t'honorer. Et ça, vous le retrouvez déjà dans l'Ancien Testament. J'en ai un peu parlé brièvement, je ne sais plus si c'était cette semaine. Vous vous rappelez l'histoire de la manne dans le désert ? Alors, moi, j'aime beaucoup cette histoire. C'est très intéressant quand on y réfléchit. Regardez, rappelez-vous, Exode 16. Exode 16. Là, on est dans l'Ancien Testament, autre contexte. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Verset 5, « Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Et j'avais dit la dernière fois avec un peu d'humour, je vais le redire cet après-midi, vous savez, il n'y a pas que KFC et McDo où il y a le drive. Hein. Parce que là, vous avez le drive, là. Le Seigneur, il fait le drive. Hein. Tous les matins, la manne, elle venait. Voyez, tous les matins, c'était le miracle de Dieu, le pain du ciel. Vous voyez, quand on lit cette histoire, la manne dans le désert, Dieu qui nourrissait son peuple, tous les matins, le peuple se levait et cette manne était là pour la nourriture du peuple d'Israël, pour des milliers de personnes qui étaient là. Mais c'était service, c'était le drive, vous voyez. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je note une chose quand même, c'est que si Dieu faisait le miracle, la manne, il fallait aller la chercher. Il fallait aller la ramasser. Et regardez un petit peu plus loin, si j'ai mis le verset, au verset 21, Exode 16, verset 21. « Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du jour, il fallait y aller. Hein. Parce que sinon, quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. » Donc ça veut dire que si vous n'y allez pas au bon moment, eh bien, ma cache, il n'y avait plus rien. Vous voyez ? Il n'y avait plus rien. Et quelque part, il ne s'agissait pas de dire le matin, en se disant, oh, ce matin j'ai la flemme. Oh, il faut se lever. Oh, le miracle, il était là devant la tente. Et, ou alors il ne s'agissait pas de dire au voisin, hey, Marcel, tu vas me le chercher, bon, aujourd'hui j'ai pas envie, je suis fatigué, voyez, pour prendre à moi. Hein. Non. Chacun devait sortir et devait aller la ramasser. Voyez, tout le monde. Autrement dit, il fallait se lever. Je crois que ça nous enseigne une chose. Là, c'est chacun personnellement, mais la nourriture pour notre âme dont nous avons besoin. Mais il faut aller la chercher. Hein. Il faut aller la chercher. Tout est à notre disposition. Hein, la table du Seigneur, elle est devant nous. Mais il faut aller le chercher. Et quelque part, il y a des efforts à faire. Hein. Avoir une piété personnelle, une communion personnelle avec Dieu, ça nécessite des efforts. Voyez, parce que il y a des jours on est fatigué, parce que des jours peut-être on est contrarié, parce que voyez, et s'il n'y a pas cette discipline spirituelle personnelle, voyez, mais spirituellement parlant, on va perdre pied si on ne se nourrit pas. Alors, un jour ça passera, hein, mais commencer à faire ça un jour, deux jours, et puis hop on mange, et puis hop. Mais qu'est-ce qui va nous arriver spirituellement parlant? C'est pour ça qu'il y a parfois, et loin de moi la pensée de juger, franchement, parce qu'on est tous pareils. Mais c'est pour ça que parfois il y a des enfants de Dieu qui ne vont pas bien. Alors je ne dis pas que c'est la seule raison, mais parfois c'est parce que quelque part, on est un peu feignant. Chacun il devait sortir et ramasser. Vous voyez, on a notre part à faire. Hein. Vous voyez, je pense aussi au livre des Proverbes, dimanche dernier, à Marignane, j'ai parlé du paresseux. Voilà, le paresseux. Vous savez que le livre des Proverbes parle beaucoup du paresseux. Par exemple, regardez, Proverbes, j'ai parlé dimanche dernier de la fourmi. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Vous connaissez ce verset dans Job ? Mais quand même, quand vous regardez la fourmi, c'est extraordinaire, hein ? Et c'est ce que dit l'auteur là. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Regarde, c'est comme si c'est l'un disait, regarde, observe bien et tu vas comprendre. Regardez la suite. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Oh, enfin, il y en a beaucoup qui aimeraient ça. Pas de patron, personne qui vous dit tu fais ci, tu fais ça, tu fais là, tatati, tatata. Eh bien, elle, c'est ça. Vous voyez ? Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas un chef, elle n'a pas un patron au-dessus, qu'elle fait la cigale. Vous voyez ? Regardez. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil ? Et vous connaissez la suite, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et il dit ceci, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Là, la fourmi, elle a compris que si en été elle ne faisait pas les efforts nécessaires, si elle ne faisait pas ce qu'elle devait faire, c'est pas pendant l'hiver qu'elle allait le faire. Parce qu'après, c'est trop tard. Après, c'est trop tard. Et c'est pendant l'été qu'elle doit fournir les efforts. Et Dieu, dans sa sagesse, nous dit, mais considère ça, réfléchis à ça et deviens sage. Regarde le mal que la fourmi, elle se donne. Regarde les efforts qu'elle fait. Et pourtant, elle n'a personne qui lui dit rien. C'est un petit animal, là. Vous voyez, wow, c'est insignifiant, quoi. Mais elle nous donne une leçon. Elle nous donne cet animal, il nous donne une leçon. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est question du paresseux. Vous voyez ? Le paresseux, voilà. Je crois que parfois, des croyants sont tombés. Croyez-moi, je ne juge personne. Parce que ça peut nous arriver. Mais je crois que des croyants sont parfois tombés parce qu'ils ont été paresseux. Par paresse. On a été léger, négligent, paresseux sur le plan spirituel. Vous voyez, on s'est contenté du minimum. On était prêt à faire des efforts pour bien d'autres choses. Mais quand il s'agissait de certaines choses importantes sur le plan spirituel, ça par contre, oh, on a laissé faire les autres. Vous voyez. Et moi j'ai envie de dire, Seigneur aide-moi. Et je lance la pierre à personne parce que je me dis, mais pendant combien de temps j'étais un paresseux sur le plan spirituel, oh. C'est le boulot des pasteurs, hein, de prier, de faire. Et puis lui, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'il est converti. Moi, et puis moi, c'est pas mon truc. Je me dis, Seigneur, quand même, quand je considère ce que tu as fait pour moi, mais je ne veux pas être un paresseux, quoi. Il y a des efforts à fournir. Et puis regardez, je prends aussi une parole de David dans un autre contexte. Quand il a voulu construire le temple, vous rappelez, Dieu lui a dit, non, c'est pas toi qui vas le faire. C'est ton fils. Ça, je ne sais pas si vous réfléchissez à ça, mais vous avez une idée, vous avez une pensée, et puis c'était spirituel, construire le temple quand même. Et Dieu lui dit, non, ce n'est pas toi qui vas le faire. Hein? Ben, moi, j'aime la réaction de David, parce qu'il n'a pas fait le bouddhiste. Hein? Il n'a pas dit, eh ben, si c'est ça, c'est lui qui va le faire, eh ben, il va se débrouiller. T'es. Non, la Bible nous dit, il lui fit des préparatifs. Et regardez, ce qu'il est dit, j'ai mis ce verset, j'aime beaucoup. 1 Chronique 22, verset 14, je ne te l'ai pas mis celui-là, si ? 1 Chronique 22, verset 14, regardez ce qu'il dit. David, il dit, « Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 100 000 talents d'or, 1 million de talents d'argent et une quantité d'airain et de fer qui n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore par mes efforts. » L'œuvre de Dieu nécessite nos efforts. Mais nos efforts, je ne parle pas que de financiers, hein, je parle de tout. Hein. Elle nécessite des efforts, voyez. Je crois que c'est important. Servir Dieu, quel que soit le domaine, ben, ça nécessite des efforts. Voyez. Et franchement, David, il était roi, hein, il avait tous les serviteurs possibles, inimaginables. Hein, il suffisait de faire, toi tu fais ça, et puis lui... Mais il dit par mes efforts. Oui. Moi, j'ai été vraiment, vraiment touché. Bon, j'ai passé plusieurs heures avec eux, là, avec les jeunes de rescapés. Là. Quand ils étaient là, je ne pouvais pas le dire, mais là, maintenant, je vais le dire. Ils ne sont plus là, ils sont partis. Ils sont à Istres cet après-midi. Mais je me dis, dans l'œuvre de Dieu, on n'a rien sans rien. Et moi, j'étais frappé par leur investissement. Vous savez que tous ces jeunes-là, ils viennent d'un peu, un de là-bas. Il y avait une Corse ce matin. Hein. Moi, j'étais content. Hein. Ça, vous ne pouvez pas savoir ce que ça me réjouit. Parmi ceux qui ont témoigné, là, Laetitia, la Corse, il y a 3 ans, j'ai eu la joie de la baptiser, de la voir là aujourd'hui. Je me dis, gloire à Dieu. Quand elle est arrivée à l'église, d'ailleurs, elle l'a raconté ce matin. Hein. Elle l'a raconté ce matin. Et que je la vois aujourd'hui témoigner, je me dis, Seigneur, combien tu es bon. Vous voyez, mais tous ces jeunes, je dis ça pourquoi? Parce que tous ces jeunes, ils se financent leur voyage. ces personnes qui leur, c'est eux-mêmes sur leur denier personnel qui se financent leur voyage. Voyez, eux-mêmes, voyez. Hier soir, ils ont fait la réunion à Marignane à 20h. Le temps d'arriver, ils sont arrivés ici, c'était minuit et quart. Je les attendais et on a tout monté jusqu'à 1h30 du matin. Voyez. Et puis ce matin à 7h, ils étaient debout. Voyez, 7h, ils étaient debout et puis. Ils sont préparés, ils ont prié, j'étais avec eux ce matin, ils ont prié, ils ont invoqué Dieu, etc., etc. Moi je dis chapeau, hein. Oui. Et ils sont repartis cet après-midi et ils remettent ça à Istres, hein. Voyez, mais tout ça pourquoi? Pas pour glorifier l'homme, hein. Vous avez bien compris, mais pour montrer que si on veut servir Dieu, mais ça nécessite des efforts. Voyez, c'est... mais oui, quelque part on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on ne peut pas se contenter du minimum, et puis non, ben Seigneur, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ouais, c'est, voilà. Et quelque part, mais je crois que c'est quelque chose que Dieu voit, ça. Et si la Bible fait ressortir de David qui dit « Voici par mes efforts », pour montrer que quelque part, tout David qu'il était, avec tout le pouvoir, l'autorité qu'il avait, mais il avait compris que quelque part, mais à cause de ce que Dieu avait fait pour lui, ben, quand même, Seigneur méritait des efforts. Et je me dis, quand je pense à ce que le Seigneur a fait pour nous. Alors, peut-être je termine par un dernier point. Et je termine par là parce que c'est important. Je pense à l'attitude qu'a eu un jour le prophète Samuel vis-à-vis de Saül. Il a eu une attitude. Quelque chose sur lequel on ne s'arrête pas souvent, moi ça m'a interpellé. Vous vous rappelez dans 1 Samuel 15, c'est un chapitre qui est le tournant dans la vie de Saül. Déjà à ce moment-là, il n'allait pas bien. Mais Dieu va essayer de le récupérer. Et c'est le fameux chapitre où Dieu va lui dire « Tu vas dévouer Amalek par interdit. » Vous vous rappelez ? Et puis, Saül, qu'est-ce qu'il va faire avec le peuple ? Il va garder les meilleures brebis, les meilleurs bœufs. Vous voyez, il ne va pas épargner le roi Agag. Il ne va pas épargner le roi Agag. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi ça m'a frappé parce que je n'avais jamais fait attention. Il ne va pas épargner le roi Agag. Et un peu plus tard, dans le livre d'Esther, vous avez Aman, l'Agagite. C'est un descendant Agag que Saül, voyez, n'a pas voulu. C'est un descendant. Voyez, c'est, bon, quoi, ça fait réfléchir quand même. C'est, les conséquences, voyez quand on y réfléchit. Purée, voyez. Et donc, il ne le fait pas. Et vous rappelez que Samuel arrive, Saül va dire à Samuel, « Ah, sois béni de l'Éternel, j'ai fait ce que Dieu m'a demandé, alléluia !» Vous voyez, il en met plein la vue. Et puis Samuel, il va dire, « Mais c'est quoi ce bêlement que j'entends là ?»« C'est quoi ce truc là ?» Vous voyez, vous savez, tout sort à un moment donné ou à un autre. Hein. Vous voyez, ça sort. Et là, regardez ce que Samuel va faire. 1 Samuel 15, verset 32. Ça pourrait passer sous silence, mais moi ça m'interpelle. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Tu parles, l'autre il l'avait épargné, il était content. Hein, voyez. Il disait, certainement l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère d'entre les femmes sera privée d'un fils. Et regardez, et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Et ce qu'il fait là, moi ça m'interpelle. Parce que ce n'est pas Samuel qui aurait dû le faire. C'était Saül qui aurait dû le faire. Voyez. Autrement dit, je vais le dire comme ça. Samuel, il a fait à la place de Saül. Voyez. Mais quand vous regardez, ça n'a pas empêché juste après à Dieu de dire, début du chapitre 16, « Écoute, Samuel, arrête de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté. » Leçon spirituelle pour nous. Elle est très importante, c'est que on ne peut pas faire les efforts pour les autres. On ne peut pas faire les efforts pour les autres. On ne peut pas faire à la place des autres. Samuel, parce que, bon, je comprends, Samuel, c'était lui qui avait oint Saül. Et je comprends, vous voyez, des fois, il y a des bien-aimés, des frères, des sœurs, des amis, tout ça, on les aime, on veut qu'ils soient bénis de Dieu. Alors on est là, on est derrière, on les encourage, on fait tout, quoi. Hein, et on se plie en quatre et on y va. Ouais, mais ça va jusqu'à un certain point. Les efforts qu'eux, ils ont à faire, on ne peut pas les faire à leur place. Alors, on va en faire, hein, on va en faire, on va se plier en quatre, on va tout faire. Allez, il faut que tout ça, on va les chercher, on revient, on repart, et ça, tati, et talala. Mais jusqu'à un certain point. Parce que la vie spirituelle, elle est personnelle. Et quand, dans un domaine ou dans un autre, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, même si ça va nécessiter des fois de se bouger, ça va nécessiter parfois des prises de position, ça va nécessiter quelques efforts. Mais si je ne le fais pas, les autres ne peuvent pas le faire pour moi. Ils ne peuvent pas le faire pour moi. Et combien de fois j'ai vu ça au cours de l'exercice du ministère, des fois des bien-aimés, ça partait d'un bon sentiment. On a voulu faire à la place des autres. Mais ça ne marche pas. Parce que la vie spirituelle, elle est personnelle. Et Samuel, c'est vrai qu'il met en pièce sa gague, mais ce n'était pas à lui à le faire, c'était à Saül à le faire. C'était à Saül. Et parce qu'il ne l'a pas fait, ça s'est mal fini pour lui. On a tout ça dans nos vies spirituelles, on a tous des efforts à fournir. Mais quelque part, on peut être là pour nos frères et nos sœurs à exhorter, à encourager, à entourer, à coucouner. Et on est là. C'est bien, il faut le faire, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'on ne peut pas toujours faire tout pour les autres. Et les efforts que chacun a à faire, on ne peut pas les faire pour les autres. Voyez. Et je crois que c'est important de le réaliser. Voyez. C'est important qu'on le réalise. Mon frère, ma sœur, s'il y en a un qui mérite qu'on fasse des efforts, c'est bien le Seigneur. Et on ne les fait pas pour mériter, mais on le fait à cause de ce qu'il a fait pour nous. Et vous savez, quand je vous dis ça, je me dis, combien de fois tu as été paresseux? Combien de fois tu as attendu que... Et je me repens devant Dieu, je dis, Seigneur, quand je réalise jusqu'où tu es allé à la croix, Seigneur, quand je réalise, Seigneur, que tu as abandonné ton ciel de gloire, et toi, dans ta parole, par ton prophète Pierre, par ton serviteur, tu dis, à cause de cela, faites tous vos efforts. Et moi, je vais... Ah non. Et moi, j'ai envie de dire que le Seigneur nous aide. Parce que je me dis que si ce n'est pas le cas, le jour où je vais me présenter devant Dieu, qu'est-ce que je vais lui dire? Je lui dis, oh, tu sais, Seigneur, j'avais un peu la flemme. Hein? Oh, Seigneur, tu sais, Pensez franchement. Alors, je veux pas mettre mal à l'aise, mais c'est pour que ça nous fasse réfléchir. Je me dis, mais Seigneur, quand je considère ce que tu as fait, la marche avec Dieu, et je termine, elle est belle, elle est extraordinaire, elle est faite, oui, de difficultés, il y a des embûches, il y a des luttes, il y a des combats, c'est vrai, mais elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue, mais elle nécessite aussi des efforts. Et je veux terminer simplement par ce verset par lequel j'ai introduit, Proverbe 24, hein, chapitre 20, verset 4, à cause du froid. Ah oui, on peut toujours en avoir des bonnes raisons, hein. À cause du froid, à cause de celui-ci, à cause de Pierre, de Paul, de Jacques, de l'autre, de l'arthrose, de machine, de trucs, de... Oui. Mais le problème, c'est que toujours à cause, et je me dis, mais Seigneur, toi, tu t'es pas arrêté à ce qu'on était. Tu aurais pu dire, mais à cause de ton péché, à cause de ce que tu as fait, à cause de ceci, à cause de cela, ben, je viens pas. Non, tu es allé jusqu'au bout. Je crois quand même que ça mérite qu'on y réfléchisse. Et je me dis, mais Seigneur, aide-nous, voyez. La vie chrétienne, elle est belle, oui, c'est par grâce que nous sommes sauvés, oui, on n'a rien à faire, tout a été accompli, c'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des efforts à faire. Et avec la grâce de Dieu, je veux dire, ben, Seigneur, ces efforts, Seigneur, je veux les fournir, sachant que quand même, l'effort suprême, c'est toi qui l'as fait, hein. c'est pas nous, hein. Je veux dire, franchement, ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle. Parce que le plus dur, c'est quand même le Seigneur qui l'a fait. Et je me dis, mais Seigneur, quelle responsabilité j'ai. Alors Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne peux pas faire à la place des autres, mais ce que moi je dois faire pour moi, je veux le faire. Et si peut-être, parce que ça arrive, et ça m'arrivera certainement encore. Des fois, Oh Seigneur, mais je suis en train de me laisser aller là. Je suis en train de devenir paresseux. Ben Seigneur, montre-moi-le. Seigneur, montre-moi-le. Seigneur, parce que Seigneur, tu mérites le meilleur. Tu mérites tout, Seigneur. Je veux pas simplement être là en attendant que, hein, le beurre et l'argent du beurre. Avec le Seigneur, ça marche pas. Ça marche pas. Voyez, ça marche pas. Voyez. Quand il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ouais, mais il y a le mot fervent au milieu. Et fervent, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein, voyez, ça veut dire qu'il faut y aller. il faut y aller, il faut persévérer, voyez. Et la persévérance, ça nécessite des efforts, voyez. Alors je sais bien qu'aujourd'hui, on est à l'époque de la facilité, hein. Tchouk, 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 c'est bon, allez hop, chut. Et hop, vous recevez ça à la maison, vous n'avez même plus à aller le chercher, c'est bon, hein. Mais des fois, le problème, c'est qu'inconsciemment, on répercute ça avec le Seigneur, hein. Alors Seigneur, moi je veux faire les efforts. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faites tous vos efforts. Mais je me dis, Seigneur, ça en vaut tellement la peine. Ça en vaut tellement la peine. Alors que Dieu nous aide. Je voudrais que vraiment nous encourager. Je ne voudrais pas que ce soit pris de manière négative, vous voyez, mais vraiment dire, Seigneur, quand je réalise ce que tu as accompli pour moi, alors Seigneur, aide-moi. Alléluia. Seigneur, encore cet après-midi, tu nous rappelles ces choses que nous savons, Seigneur, mais tu les remets sous nos yeux. Seigneur, quand je considère la fourmi, ce qu'elle est capable de faire, elle n'a ni chef, ni maître, elle n'a rien au-dessus d'elle et pourtant, elle fait ce qu'elle a à faire, Seigneur. Aide-nous à être fidèles, Seigneur. Je me souviens, Seigneur, que ta parole dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Aide-nous à être fidèles, Seigneur, et je demande de nous aider les uns et les autres, Seigneur. Et si peut-être il y a eu parfois de la paresse, Seigneur, je veux personnellement t'en demander pardon. Seigneur, parce que je réalise que toi, tu as été jusqu'au bout. Seigneur, tu n'as pas lésiné, Seigneur. Tu t'es offert entièrement, pleinement à la croix pour moi. Alors Seigneur, à cause de cela, je veux vraiment, Seigneur, réaliser ces choses et te dire aide-nous, aide-moi, Seigneur. Et dans tout ce que tu mets devant nous, Seigneur, je demande de nous aider à l'accomplir. Seigneur, avec les forces, oui, toutes nos capacités, elles viennent de toi. Mais Seigneur, n'empêche, je veux le faire avec ta grâce. Alors Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur. Encourage-nous, fortifie-nous. Seigneur, nous nous attendons à toi parce que Seigneur, tu n'en as pas fini. Alors à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen.